Holy calamity, scream insanity, or are you ever gonna be another great fan of me? Break.
Vous écoutez une émission de radio. Ne déconnectez pas votre poste. Bienvenue sur 93.9 FM. Vous écoutez concrètement.
Je comprends pas ce que tu veux dire, mec.
Y a pas grand chose à comprendre. C'est les ados. Ça a toujours été les ados. T'es là, t'as quoi? 13? 14 ans? Ton cousin te montre Pulp Fiction pour la première fois. Tu pètes un câble. T'as jamais vu un truc pareil de ta vie. Alors quand tu rentres chez toi le soir dans le vieux Nissan Serena de ta mère, ça fuse dans ta petite tête de teenager à la con. T'es jeune. Tu penses qu'à te branler et à jouer à Dead Rising 3. Et un mec vient de poser ses couilles sur ton front et te dire « Regarde, moi je fais de l'art. » T'es impressionné. Tu regardes tous les films de Tarantino. Tu te dis « Putain, ce mec, c'est le plus grand réalisateur de tous les temps. » Et puis tant qu'on y est, tu t'inscris dans l'option cinéma de ton lycée et tu deviens insupportable. À chaque fois que tu fais un court-métrage, t'essaies de mettre des flingues et un plan où les personnages ouvrent le coffre d'une bagnole.
Et le plan est filmé depuis le coffre.
Tu vas en fac de ciné et tu restes un connard pendant quelques années. Et quand t'as l'âge d'en sortir, tu vois que ton petit frère essaie de se mater quelques bons films. Donc tu lui dis « Regarde Pulp Fiction, mec. » Et le cycle reprend. Et c'est exactement pour cette raison que tu pourras jamais draguer une meuf en parlant de cinéma. À cause des ados. Et de Tarantino. Voilà.
Tu sais que j'ai toujours eu peur des meufs qui se déguisent en Mia Wallace pour Halloween.
Oh, je te parle de la chute de l'Occident et tu me parles de déguisement?
Mais je sais pas quoi te dire, moi. Ça tient pas debout, tes conneries. Les gamins, aujourd'hui, ils passent leur temps à faire des TikTok pour parler d'Ari Aster. Ils s'en branlent de Tarantino.
Mais bien sûr qu'ils sont toujours obsédés par Tarantino. C'est un cycle, je te dis. Parce que tu peux dire ce que tu veux, ça reste grave flashy. Quand un kémé vient devant toi avec des belles images et des giclées de sang, ton cerveau de singe, il explose. C'est mathématique. Le mec est trop cool. Il te fout de la bonne musique, il te cale des références bien 70s qu'on connaît pas en France, ça fait stylé. T'imagines si on faisait ça ici, chez nous? Ça puerait la merde. Tu veux parler de quoi? De la minute de Soul? Donc quand c'est Tarantino qui le fait, ça a l'air cool. Et puis c'est subversif. Le concept du mec, c'est un guerre qui se permet de traiter tout le monde de nez.
Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur?
Non, je voudrais l'addition, s'il vous plaît.
Tout de suite, monsieur.
Donc ouais, les jeunes aiment toujours Tarantino. Le cycle va jamais se terminer. Et pense bien à ce que je te dis. Tu sais jamais quand on aura besoin.
Ah bah oui, évidemment. Et ça va changer ma vie de savoir que tu peux pas pécho à cause de Tarantino. Allez viens, on se tire.
Vous écoutez toujours une émission de radio nommée Concrètement.
Maudit est celui qui demande à un jeune cinéphile quel est son réalisateur préféré. Vous le savez déjà, on ne peut s'attendre qu'à une seule réponse, Quentin Tarantino. Certains diront que ça, c'était avant. Alors certes, ce cliché ne date pas d'hier. Dans les années 2000, les malheureux qui rentraient en fac de cinéma étaient tous des fans acharnés de Tarantino. Mais après, leur culte a pu peut-être se tourner, disons, vers Christopher Nolan. Aujourd'hui, ça doit être quelqu'un d'autre. Ari Aster, peut-être. Ou un random que les mecs de Concrètement sont trop vieux pour connaître. Alors oui, peut-être que les temps ont changé. Peut-être qu'aujourd'hui, Tarantino n'est plus considéré comme un dieu absolu à l'échelle des facs de ciné. Mais tout de même, le cliché persiste parce qu'il a un fond de vérité. Les jeunes continuent d'adorer Tarantino. Encore aujourd'hui, si vous allez sur TikTok, vous verrez des tonnes de jeunes affirmant qu'il s'agit de leur réalisateur préféré. La question est donc, pourquoi est-ce que le cinéma de Tarantino parle autant aux jeunes cinéphiles? Et à cette question, nous, on a trouvé trois éléments de réponse. Mais pour parler du premier, il faut déjà se remettre un peu dans le bain. Donc, quand on a entre 11 et 15 ans, on ne réfléchit pas nécessairement le cinéma. On ne va pas critiquer un long-métrage sur la seule base de sa proposition théorique, plutôt, on juge un film en considérant le degré auquel il nous divertit et en déterminant s'il a ce petit plus qui le rend unique. On apprécie sa vibe, quoi, son ambiance.
Excusez-moi, monsieur, c'est intéressant ce que vous dites, mais j'aimerais juste vous poser une petite question. Vous savez, ma femme me demande toujours pourquoi la première partie de Concrètement a toujours l'air aussi familière. Vous savez, elle, ce qu'elle aime, c'est la minute de Soul. Alors, le reste de l'émission, je l'entends pas souvent, voyez.
Mais tout de même, quand vous dites que les jeunes aiment les films en raison de leur vibe, ça me rappelle un certain extrait du premier épisode de votre émission.
Comment est-ce que eux, ils appréhendent et ils comprennent un film ? Eh bah, pour beaucoup, en particulier pour les plus jeunes, ceux qui ne sont peut-être pas encore adolescents, ça repose sur des facteurs quand même très relatifs. Par-delà, entendons vulgairement les vibes.
Vous ne seriez pas en train de vous autoplagier par hasard ?
Oui, inspecteur Colombo, on reprend nos propres textes, on ment aux millions d'auditeurs qui écoutent Radio Campus Paris le mercredi à 18h. Foutez-moi un procès tant que vous y êtes, putain ! Plus rien faire dans ce pays. Bon, si on reprend des éléments de notre épisode sur les teen movies, ce n'est pas pour rien. Si on veut comprendre comment les ados deviennent fans d'un film, il est obligatoire d'étudier la vibe du dit film. Et dans le cas présent, il se trouve que la filmographie complète du réalisateur qui nous intéresse est à la fois divertissante, mais aussi teintée de vibes absolument immaculées. La raison, elle est simple. Quentin Tarantino est une égérie du cool. C'est peut-être l'analyse la plus superficielle que l'on puisse produire au sujet de son œuvre, mais comment passer à côté ? À chaque film, la bande-son déchire, la caméra se montre esthétisante au possible, les monologues sont éloquents, drôles, et sont franchement de la chair à canon pour celui qui aime citer des répliques cultes. Prenez Pulp Fiction, c'est pas pour rien que tous les étudiants en cinéma ont un poster de ce film chez eux. Ce film, c'est un puits de réflexion sur le cinéma postmoderne et sur sa qualité métanarrative, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on s'en branle de tous ces arguments de vieux nerd parce que juste c'est trop stylé la putain de merde. Ce film est tellement stylé que ça peut changer un homme. Pendant des années, et c'est complètement vrai, j'ai commandé du Sprite au McDo à cause de ce film. Et c'était même pas mon Tarantino préféré. Pourquoi ? Parce que c'est trop cool ! Et parce que je voulais être trop cool, et qu'à 13 ans, de toute façon, personne n'a les armes pour devenir une personne cool. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on se projette sur nos idoles culturelles, et il se trouve que si vous voulez faire ça, Quentin Tarantino, c'est juste le candidat parfait. Son cinéma est un panneau publicitaire pour l'image de cool que les ados pédants et fans de pop culture veulent renvoyer à la face du monde.
Alors, c'est super tout ça, hein. Moi aussi j'adore Tarantino. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle c'est le premier réalisateur préféré des ados.
Effectivement, d'ailleurs, peut-être que tu pourrais m'aider sur...
La minute de sou...
Hey, tu joues à quoi, là ?
Bah, c'est évident, non ? On fait une petite pause dans l'émission, on parle d'une question un peu rigolote. Bah, je dois lancer la minute de sou.
Mais ça marche pas comme ça, c'est pas toi qui décide, en fait.
Mais tu peux pas m'enlever ça ? C'est mon identité, c'est mon branding.
Vous savez, ma femme me dit qu'elle a entendu cette blague dans l'épisode sur les films de Daron.
Ta gueule, Colombo.
D'accord, je vais fermer ma gueule.
Donc, tu disais...
Tarantino, c'est souvent le premier réalisateur préféré des ados, et il y a peut-être une raison derrière tout ça.
Effectivement. Tout ce qu'on a dit sur le cinéma de Tarantino jusque-là pointe juste vers un fait, à savoir que son style est à la fois très marqué et très reconnaissable. Ça, tant que vous n'êtes pas aveugle, normalement, vous le savez déjà. Mais malgré son évidence, ce point n'est pas inintéressant dans la mesure où il nous permet de mieux comprendre la deuxième raison pour laquelle les jeunes adorent les films du vieux Quentin. Même si eux-mêmes ne le réalisent pas, son cinéma, c'est leur porte d'entrée vers la cinéphilie. En soi, un ado devient cinéphile à partir du moment où il interroge la raison d'être d'un film et la façon d'être d'un film. Pour ça, il faut qu'il se demande qui est derrière la caméra. Et là, encore une fois, Tarantino, c'est le candidat parfait. C'est un auteur avec un grand A, mais surtout, les traits qui font de lui un auteur sont les mêmes éléments qui l'érigent comme une égérie du cool. Du coup, son œuvre est particulièrement facile à remarquer dans une foule de productions populaires en ce moment relativement fades. À partir de là, tous les éléments nécessaires sont présents pour créer un point de bascule dans la vie de quelqu'un qui aime les films. Le corpus de Tarantino va inévitablement ouvrir de nouvelles perspectives de compréhension chez un ado qui veut découvrir de nouvelles choses. Et puis, il faut pas oublier que son cinéma est tout autant ouvert à l'analyse que documenté. Et ce, à toutes les échelles de compréhension. Celui ou celle qui veut poncer Tarantino fera un paquet de nouvelles découvertes, c'est inévitable. Et pour cause, il ou elle pourrait passer une vie entière à lire tout ce qui a été écrit sur le bougre, et une autre vie à regarder tous les films qui l'ont inspiré. C'est pour ça que, des années 90 à aujourd'hui, ça a toujours matché avec les ados.
Et puis à l'époque, il y avait un contexte qui aidait beaucoup.
Oui bon, si j'en parle pas, c'est pas pour rien, hein. On fait un peu des caisses avec le contexte. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de parler encore pop culture années 90, quoi.
Eh, hey, tu m'as déjà coupé tout à l'heure. Fais pas ta pute là, pose la question et lance le jingle.
Non mais Swill, du calme, on va pas s'embrouiller pour ça quand même non plus.
Pose la question.
Swill, qu'est-ce que tu fais avec ce flingue là?
Pose la question, je te dis.
D'accord. Dis-moi, comment c'était la pop culture dans les années 90?
Lance le jingle là.
La minute de Swill.
Les années 90, c'est un énorme bordel, on va pas se mentir. Pour moi, la pop culture aux States, elle est marquée par trois grandes figures que j'aime appeler les 3 M. D'un côté, on a Michael Jordan, de l'autre Michael Jackson, et enfin, Macaulay Culkin. Donc en vrai, on est assez bien servi, hein. Le sport connaît une ère que beaucoup considèrent comme un véritable âge d'or, la musique voit arriver une multitude de nouveaux genres, et les cinéastes nous pondent classique sur classique. Après bon, pour rééquilibrer la balance, je me sens un peu obligé de citer des trucs un peu moins cool que Michael Jordan, comme George Bush, la guerre en Irak et la mort de Notorious B.I.G. Mais du coup, pourquoi ce sentiment de chaos qu'impose aux 90s, hein? C'est assez simple, pour moi les 90s c'est l'âge d'or de la culture trash avec un grand T. C'est une génération qui est bercée par Internet et MTV jusqu'à l'overdose, et faut se dire que pour ces gamins de Jackass, c'est l'équivalent du Club Dorothée, hein. Parce que là, pendant que nos enfants ils nous demanderont comment on a vécu l'arrivée du Covid, eux, ados bénis des saintes années 90, expliquent actuellement à leurs gosses comment le 900 degrés de Tony Hawk il a changé leur vie. Et Tarantino, c'est le produit de tout ça.
La minute de sourire.
Je pense qu'on a traversé assez d'émotions aujourd'hui, on va peut-être conclure. Il reste une dernière raison pour laquelle les jeunes adorent Tarantino. Le cercle, le cycle, l'ouroboros. Comme Swill nous l'a si bien expliqué, le cinéma de Tarantino ne sort pas de n'importe quelle époque. Et il se trouve que, une fois que les ados de cette époque ont été touchés par ces films, une fois qu'ils se sont inscrits en fac de ciné et qu'ils ont acheté leur poster Pulp Fiction, ils ont entraîné leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs jeunes cousins, leurs jeunes cousines dans leur délire. Et forcément, en considération des éléments que nous avons évoqués durant cet épisode, eux aussi, ils ont été conquis. Puis, eux aussi se sont inscrits en fac de ciné, et eux aussi ont répété le cycle, encore et encore et encore, jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, les choses ont changé. Le cinéma de Tarantino lui-même a changé. Quelques branlos pourront même affirmer que son dernier film est un commentaire sur la perception que le public a de son cinéma. Mais vu que c'est objectivement bateau, je suis presque certain que pas mal de critiques français ont dû déjà évoquer l'idée, donc je vais m'abstenir. Le cycle est une évidence. D'ailleurs, la véritable question de cet épisode, ça devrait peut-être être « Peut-on briser le cycle ?» Ou plutôt « Doit-on briser le cycle ?» Car après tout, il est la source de milliers de courts-métrages étudiants médiocres. Il est la raison pour laquelle on ne peut débattre correctement avec des gens qui sortent de licence de cinéma. Le cycle, c'est la matrice même du jeune cinéphile péteux. Mais, est-ce que ces comportements insupportables ne trouveraient pas raison de vivre sans le cycle Tarantino? Et puis, est-ce qu'on peut se permettre de perdre une telle porte d'entrée vers une cinéphilie plus affinée? Il est insupportable de croiser des jeunes cinéphiles fans de Tarantino, certes, mais c'est peut-être le prix à payer pour être sûr qu'ils restent dans le droit chemin. Parce que, entre nous, qu'est-ce qui se passera après, dans le parcours de passionnés de ces gens-là? Ils garderont leur amour près de leur corps, puisqu'on parle quand même d'un super réalisateur, mais, passé les années folles, ils se mettront à découvrir ce cinéma dans lequel leur réalisateur préféré trouve son inspiration. Ils découvriront que leur propre amour du cinéma n'est pas obligé de conforter leurs habitudes de visionnage. Il faut juste attendre un peu pour que ça fonctionne. En attendant de trouver une meilleure solution, en attendant que les étudiants en cinéma décrochent leur poster de Pulp Fiction, moi je vous dis merci de votre écoute et au mois prochain pour une nouvelle question. Ouais, c'est toujours aussi dur de faire un générique, ça a pas changé depuis les autres émissions. Donc pour donner les noms de tout le monde un peu au hasard, Noé Leprêtre à la réalisation, à l'écriture et à la voix, Enak Doji à l'écriture et à la voix, et Swill Mankouri à l'écriture et à la voix, et le reste, comme toujours, à la chance ou au catalogue de l'Assassin's Creed.